Tu connais la phrase de Lao Tzu sur l'inattendu ? Aveugle, nous suivons le sentier de la vie.
Pas de quoi avoir les jetons. De toute façon, on y va tous. C'est la seule chose dont on soit sûr. Le problème, c'est de savoir à quelle vitesse on y va.
Quelle bonne surprise !
Allez, viens, toi. J'ai hâte de parler.
Écoutez, mon vieux, vous auriez pu trouver plus simple.
Bonjour, nous sommes 6 ados de l'accompagnement à la scolarité du cadran et on est super content de vous présenter notre travail depuis plusieurs semaines avec Syllab.
On a pu choisir plein de sujets qui nous intéressent et aller à la rencontre de beaucoup de personnes passionnantes.
Pour commencer, on va essayer de trouver des solutions et d'avoir des témoignages sur le harcèlement scolaire. On est allé voir des jeunes de notre âge, mais aussi des adultes pour voir ce qui se passe dans le harcèlement et comment il est vécu.
On parlera aussi de nos amis les chats avec l'association Les Petits Corrigans. Cette asso sauve et aide à l'adoption les chats, les chiens et d'autres animaux.
On parlera aussi du racisme avec deux associations, Liberté Couleur et le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples.
Et puis on discutera des grèves avec des habitants et habitantes rennais et rennaises.
C'est parti!
Le harcèlement scolaire touche plein de jeunes et on a entendu plein de témoignages dans la rue. Écoutez!
Qu'est-ce que le harcèlement scolaire pour vous?
Pour moi, le harcèlement scolaire est de se faire taper tous les jours.
Est-ce que vous avez déjà été harcelé?
Oui!
Par rapport à quoi? Et dans quel contexte?
Car je n'avais pas de marque.
Que pourriez-vous dire à des victimes de harcèlement?
Éviter les harceleurs.
Qu'est-ce que le harcèlement scolaire pour vous?
De se faire taper et frapper.
Est-ce que vous avez déjà été harcelé?
Oui.
Par rapport à quoi? Dans quel contexte?
Bah, parce que je traînais tout le temps avec Théo et après ils sont énervés.
Que pourriez-vous dire à ces victimes de harcèlement et à des harceleurs?
D'arrêter de nous embêter. Arrêtez d'embêter des personnes et arrêtez d'embêter les victimes.
Qu'est-ce que le harcèlement scolaire pour vous?
Des personnes méchantes qui disent des choses méchantes aux autres.
Est-ce que vous avez déjà été harcelée?
Oui, je crois que quand j'étais petite à l'école, j'étais étrangère, donc à cause de mon accent, j'étais harcelée pour ça.
Que pourriez-vous dire à des victimes de harcèlement et à des harceleurs?
Aux victimes, je dirais qu'il ne faut pas prendre ça trop personnel parce que en fait, ce n'est pas vrai. Il faut vraiment avoir confiance en soi et pas écouter ses critiques parce que c'est vraiment de n'importe quoi. Et les personnes qui harcèlent, je dirais qu'il faut arrêter, qu'il ne faut pas dire des choses pas prudentes, pas méchantes aux autres, que voilà, il faut être gentil avec tout le monde.
C'est le fait de discriminer quelqu'un sur le lieu de scolaire, que ça soit sur son physique ou sur sa couleur de peau.
Est-ce que vous avez déjà été harcelé?
Moi, non.
Que pourriez-vous dire à des victimes de harcèlement et à des harceleurs?
Je leur dirais que c'est pas parce qu'ils se sentent pas bien dans leur basket, qu'ils se sentent pas bien dans leur peau, qu'il faut s'en prendre aux autres, peu importe leur motivation, tout simplement.
Qu'est-ce que le harcèlement scolaire pour vous?
Alors c'est une ligue de plusieurs personnes contre une seule personne. Ou peut-être un groupe de plusieurs personnes qui harcèlent et qui malmène une personne, en fait, une minorité.
Est-ce que vous avez déjà été harcelée?
Non, malheureusement, non. Enfin, je dis malheureusement, heureusement, je veux dire non.
Que pourriez-vous dire à des victimes de harcèlement?
Il ne faut pas rester dans son coin, il faut en parler. C'est très important de se libérer de ce fardeau. Il faut pouvoir échanger avec les personnes, que ce soit avec sa maman ou avec son père ou même avec une assistante sociale à l'école. C'est très important de pouvoir en parler et de se libérer de ça. Parce que le silence, ça emprisonne en fait.
Que pourriez-vous dire à des victimes de harcèlement et à des harceleurs?
Et si c'était vous? Et si c'était vous à la place de la personne que vous harcelez, vous ressentirez quoi?
Qu'est-ce que le harcèlement scolaire pour vous?
Je dirais que c'est C'est des comportements en fait que subissent une personne en particulier, discriminante, et qui peuvent faire beaucoup de mal en fait à cette personne.
Est-ce que vous avez déjà été harcelé ?
Quelques fois au collège par exemple, par des messieurs qui préféraient la force, par exemple, à certaines autres passions. C'est des choses qui arrivent par moments. C'est compliqué de vivre avec, mais il faut le faire.
Que pourriez-vous dire à des victimes de harcèlement et à des harceleurs ?
Courage, un gros soutien aussi. Et que de toute façon, ça ne dure pas toute la vie, tout ça, et qu'ils ont plein de choses à offrir eux-mêmes. Faut pas.
Et qu'est-ce que vous diriez à des harceleurs ?
Qu'il ferait mieux d'apprendre à vivre avec les autres, quoi, de ne pas se sentir seul. D'apprendre à vivre avec les autres surtout. Ouais, je pense que c'est principal. Voilà.
Merci. Qu'est-ce que le harcèlement scolaire pour vous ?
C'est rejeter quelqu'un. Au niveau de l'école déjà, vu que c'est harcèlement scolaire, c'est rejeter quelqu'un parce que, par exemple, on le trouve différent ou bizarre ou quelque chose comme ça.
Est-ce que vous avez déjà été harcelé ?
Ouais.
Par rapport à quoi ? Dans quel contexte ?
J'ai été harcelée parce que certaines filles de mon école ne m'aimaient pas beaucoup et j'avais des bons résultats par rapport à elles au niveau du sport. Et elles n'étaient pas contentes du tout. Et du coup, elles m'ont rabaissée énormément. Je me suis sentie très mal. Et résultat, mes résultats sont tombés très très bas et elles, ça leur a permis de s'améliorer.
Que pourriez-vous dire à des victimes de harcèlement et à des harceleurs ?
À toutes les victimes de harcèlement, ceux qui font ça sont pas très intelligents. Donc faut pas s'en préoccuper, faut garder la tête haute et continuer à avancer. Et aux harceleurs, c'est juste très 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 méchant de faire ça. Ça peut détruire la vie de quelqu'un, donc faut vraiment arrêter.
Qu'est-ce que le harcèlement scolaire pour vous ?
C'est le fait de se mettre en bande pour persécuter ou embêter une personne toute seule qui n'a pas de moyen de se défendre.
Okay. Et est-ce que vous avez déjà été harcelé ?
Moi non, mais je connais des gens qui l'ont été.
Que pourriez-vous dire à des victimes de harcèlement et à des harceleurs ?
Pour les personnes qui sont victimes, qu'il faut essayer de trouver quelqu'un en qui ils ont confiance pour en parler, pour se faire aider, pour les harceleurs, essayer de se mettre à la place de la personne qu'ils harcèlent pour voir ce que ça fait et se dire que c'est pas forcément la bonne chose à faire.
Qu'est-ce que le harcèlement scolaire pour vous ?
C'est quand une personne est harcelée déjà, elle reçoit des moqueries ou alors on la pointe du doigt à l'école et voilà, elle a toujours la boule au ventre pour aller à l'école, enfin je sais pas, pour moi c'est ça.
Est-ce que vous avez déjà été harcelée ?
Ah, pas du tout, non.
Que pourriez-vous dire à des victimes de harcèlement et à des harceleurs ?
Qu'il faut aller voir des adultes, qu'il faut en parler et faire le maximum pour que tout se sache et pas se laisser faire, tout simplement.
Et pour les harceleurs ?
Eh bien, que ça ne sert à rien ce que vous faites parce qu'un jour, la roue va tourner et ça sera eux, du coup, pour le coup, qui seront harcelés. Voilà.
Qu'est-ce que le harcèlement scolaire pour vous ?
Beaucoup de choses en soi. Ça peut être un peu n'importe quoi tant que c'est répété et que c'est à l'école. Généralement, c'est, un mec qui brutalise quelqu'un ou n'importe quoi, tant que c'est répété et qu'il y a quelqu'un qui en souffre, j'imagine que ça rentre dans la catégorie.
Est-ce que vous avez déjà été harcelé ?
Ouais, c'est arrivé, ouais.
Si oui, par rapport à quoi ? Dans quel contexte ?
C'était au collège, et c'était surtout parce que je parlais comme ça avant. Ouais, j'avais un petit cheveu sur la langue, ça aidait pas beaucoup. Du coup, ouais, pas mal. Et puis au bout d'un moment, j'en ai eu le ras-le-bol et ça s'est arrêté.
Que pourriez-vous dire à des victimes de harcèlement et à des harceleurs ?
Il n'y a pas grand-chose à dire en soi. Hein. Harceler, c'est pas bien. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Quand on est harcelé, il n'y a pas grand-chose à faire en soi. Parce que généralement, en parler, c'est encore pire. Donc généralement, ça dépend de la situation. Donc je ne saurais pas trop quoi dire à part de s'accrocher et de s'accrocher et de pas se laisser trop influencer par ça.
Pour en savoir plus sur les solutions au harcèlement scolaire, on est allé au collège Rosa Parks pour rencontrer des adultes qui doivent faire face et réagir à des situations de harcèlement.
Est-ce que vous avez déjà réglé des problèmes d'harcèlement cette année ou avant ?
Oui, ça m'est arrivé. Le harcèlement sur certains élèves ici, oui. Et aussi sur la période quand j'étais au collège.
Est-ce qu'il y a eu beaucoup de problèmes de harcèlement scolaire ?
Ici, à Rosa Parks ? Il y en a eu quelques-uns, mais je saurais pas dire combien.
Est-ce que c'est simple de les régler ?
Simple de régler, il faut déjà en parler aux personnes concernées, surtout ceux qui font subir le harcèlement scolaire, après leur faire comprendre qu'ils agissent mal, en fait, simplement. Et que du coup, l'élève qui subit le harcèlement, lui, subit un état, on va dire, de mal-être, et il a même... Forcément, il se sent un peu mal à l'aise dans le collège, il n'a pas forcément envie d'y venir ou des choses comme ça. Donc.
Est-ce que quelqu'un vous a déjà insulté sous prétexte que vous n'avez pas réglé correctement un problème ?
Non.
Que pourriez-vous dire à des victimes de harcèlement et à des harceleurs ?
Sur des personnes victimes de harcèlement, de venir, si ça peut être en sein du collège, s'ils en sont victimes, de venir en parler... à n'importe quel adulte qui peut être un soutien pour lui et lui venir apporter son aide. Parce que face au harcèlement, il ne faut surtout pas être seul, donc il faut surtout venir en parler. Et pour les personnes victimes, qui font subir du harcèlement, leur faire comprendre que leurs agissements sont mauvais et que ça met une mauvaise... une mauvaise influence dans le collège. Donc,
Est-ce que vous avez déjà réglé des problèmes d'harcèlement cette année ou avant ?
Oui. Ça arrive assez régulièrement.
Est-ce qu'il y a beaucoup de problèmes de harcèlement scolaire ?
Il y a des problèmes de harcèlement scolaire, mais dans cet établissement, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup.
Est-ce que c'est simple de les régler ?
Non, ça prend beaucoup de temps. D'abord, les victimes mettent longtemps avant de parler, avant qu'on s'en aperçoive qu'il y a un problème. Et puis après, il faut faire du travail avec la victime et le harceleur, et ça peut prendre du temps. Hein, ce n'est pas quelques jours, c'est quelques semaines, ou voire pour certains, ça peut durer quelques mois.
Est-ce que quelqu'un vous a déjà insulté sous prétexte que vous n'avez pas réglé correctement un problème ?
Oui, c'est déjà arrivé. Par des élèves, autant que quelquefois par les parents des élèves. Mais ça arrive. Mais en même temps, ça fait partie des risques du métier.
Que pourriez-vous dire à des victimes de harcèlement ou à des harceleurs ?
Alors, surtout aux victimes, c'est de ne pas hésiter à en parler à une personne de leur choix. Quand elles sont harcelées, quand elles sont embêtées régulièrement, il faut en parler. Alors, pas nécessairement à venir en parler à quelqu'un de la direction. Il faut trouver une personne à qui en parler. Parce que plus vite on en parle, plus vite ça s'arrête. Quand on ne parle pas de ce qui vous arrive, après, ça devient compliqué parce qu'on se renferme sur soi. Et puis ça va, plus on se renferme, et c'est là où il peut y avoir des soucis très importants pour la victime. Maintenant, pour les harceleurs, j'ai envie de leur dire, mettez-vous à la place d'une victime pour essayer de comprendre ce que c'est, le calvaire que ça peut être.
Est-ce que vous avez déjà réglé des problèmes d'harcèlement cette année ou avant ?
Cette année, non, comme j'ai commencé en septembre. Et avant, pas que je sache non plus.
Est-ce qu'il y a beaucoup de problèmes de harcèlement scolaire ?
En fait, je me souviens, si on pourrait appeler ça du harcèlement là cette année. Est-ce qu'il y en a beaucoup ? Je pense qu'il y en a plus qu'on ne le pense, ça c'est sûr. Vu que souvent ceux qui sont victimes de harcèlement n'en parlent pas tout de suite. Maintenant, de ce que je vois ici en tout cas, ouais, ça arrive, malheureusement. C'est jamais simple parce que justement le plus dur des fois c'est de faire parler celui qui se fait harceler et qui des fois n'en a pas conscience. Ou alors qui se tait, préfère ne pas en parler. Donc en fait, c'est déjà dur de bien le détecter. Et puis pour le résoudre, après, ça prend du temps. Parce qu'il faut aller voir, prendre du temps avec ceux qui harcèlent, connaître les raisons de chacun, et puis trouver la meilleure solution pour faire en sorte que ça ne se reproduise plus.
Est-ce que quelqu'un vous a déjà insulté sous prétexte que vous n'avez pas réglé correctement un problème ?
Peut-être, mais jamais vraiment de façon sérieuse ou... Non, ça ne m'est jamais arrivé vraiment, non.
Merci au Collège Rosa Parks et à son équipe d'avoir répondu à nos questions.
Alors, moi je travaille pour une association qui s'appelle Liberté Couleur, qui est une association de prévention santé,
qui intervient dans les écoles, dans les collèges et dans les structures d'animation jeunesse notamment, pour renforcer les comportements positifs essentiellement, et en essayant d'amener les jeunes à prendre du recul sur un certain nombre de comportements, sur la façon dont ils sont en relation avec les autres, et du coup en essayant de mettre en avant les bonnes pratiques entre guillemets, et on espère que tout ça, ça va amener à une réduction des comportements néfastes, et voilà. Et on intervient toujours, on essaye d'intervenir au maximum avec les personnels éducatifs des établissements quand on intervient au milieu scolaire. Comme ça, quand même nous on n'est pas là, eh ben on essaye de que les jeunes repèrent les relais, justement les personnes en qui ils peuvent avoir confiance pour parler.
Qu'est-ce que le harcèlement pour vous ?
Alors le harcèlement, c'est différent du harcèlement scolaire. Le harcèlement en général, c'est une violence, enfin c'est une action agressive répétée, volontairement nuisible. On a envie de faire du mal aux autres, à une personne, dans un rapport de force inégal. C'est-à-dire que soit plus fort, soit plus nombreux, voilà. Et pour le coup, dans un milieu scolaire, c'est quand ça se passe, c'est des moqueries, des brimades, des humiliations, des insultes répétées tout le temps à la même personne, par la même personne, et qui a pour effet de dégrader la condition de vie de la victime, par des pressions ou autre.
D'accord. Et le harcèlement scolaire ?
Ben c'est ce que je viens de te dire, c'est si ça se passe en milieu scolaire, auprès d'une personne, que ça se passe du coup à l'intérieur des murs ou en dehors des murs, si ce sont des personnes qui sont dans la même école par exemple, qui se côtoient régulièrement, on appelle ça du harcèlement scolaire.
D'accord.
Est-ce qu'il y a beaucoup de problèmes d'harcèlement scolaire ?
Alors il y en a beaucoup. On en entend plus parler aujourd'hui qu'il y a un certain temps, parce que les pouvoirs publics ont décidé de mettre l'accent dessus. Il y a une journée nationale, le 7 novembre je crois, de stop au harcèlement scolaire. Et il se passe des choses dans toutes les écoles, normalement. Mais oui, c'est un phénomène qui est assez important.
Est-ce que c'est simple de les régler ?
Non. Non, parce que souvent on est au courant quand c'est déjà trop tard, quand il y a des vraies situations de mal-être, de souffrance de la part de la victime, que les adultes qui peuvent faire quelque chose sont mis au courant tard, et que les témoins avertissent pas spécialement, et que c'est systémique en fait. Il y a plein de gens qui sont concernés. On parle beaucoup des harceleurs et des harcelés, mais on parle pas des témoins qui ont un rôle essentiel dans la résolution des conflits. Parce que la personne qui est victime de harcèlement, elle va peut-être mal le vivre, elle va avoir honte de pas savoir se défendre, et donc elle va hésiter à en parler. Alors dans ce cas-là, c'est aux copains, aux copines, aux autres personnes du collège ou de l'école ou du lycée, peu importe de quel endroit, mais c'est aux personnes qui voient la situation se dérouler de faire quelque chose pour aider la victime. Et donc tout ça, ça prend du temps, donc c'est pas facile.
Est-ce que vous avez déjà été harcelé ?
Non, moi j'ai jamais été harcelé personnellement.
Est-ce que quelqu'un a déjà insulté sous prétexte que vous n'avez pas réglé correctement un problème ?
Non, parce que moi je suis pas en permanence dans un même établissement. Et puis de toute façon, on vient pas pour résoudre des conflits. On essaye d'agir pour essayer de faire prendre conscience aux gens des comportements positifs. Dans l'objectif de diminuer les situations de harcèlement, mais on ne vient pas pour résoudre un conflit. Voilà, c'est plutôt des personnes comme les CPE ou les profs principaux ou d'autres adultes qui sont au quotidien dans l'école qui vont être en situation de résoudre un conflit peut-être, ou la justice peut-être aussi.
Que pourriez-vous dire à des victimes de harcèlement et à des harceleurs ?
Eh bien aux victimes qu'elles ne sont pas seules, qu'il y a plein de témoins autour d'elle, qu'il ne faut pas hésiter à aller les voir. Je veux surtout parler aux témoins, aux témoins, oui, d'aller aider la personne. Et puis, sinon, aux victimes, il y a le 3020, qui est le numéro gratuit pour aller sur la plateforme Non au harcèlement, le site internet nonauharcèlement.education.gouv.fr, ou alors le 0800 502 806, qui est le numéro du rectorat sur la mission lutte contre le harcèlement et les discriminations. Il y a les permanences de l'UDAF. Il ne faut pas hésiter à aller voir les infirmières scolaires, les assistantes sociales, un CPE, proviseur, adjoint, proviseur, enfin un adulte en qui ils peuvent avoir confiance, celui qu'ils pensent pouvoir avoir confiance, en qui ils peuvent avoir confiance. Un prof, même si c'est pas le prof principal, ça peut être le prof de sport, ça peut être le prof de maths, on s'en fiche. Et puis bah aux agresseurs, essayez de vous mettre dans la peau de l'autre. Si vous n'êtes pas sûr de vous et que vous avez besoin de montrer les muscles, parlez-en. Exprimez votre mal-être, parce que c'est pour exprimer un mal-être, on essaye de renforcer son assurance en faisant souffrir un autre. Donc c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc parlez-en aussi, quoi.
On fait tout de suite une pause musicale et on se retrouve juste après pour parler chat.
Ah, tu connais quoi, elle veut me manipuler. Fais doucement, tu pourrais m'en douter. Je vois que tu galères à passer le step. Parler dans ma tête, c'est mort, je t'en vais balader. Mais je t'avais dit que j'étais sauvage. À vrai dire, je suis pas très sage. Et tu vois bien ce que je dégage. Je suis trop charismatique. Tu kiffes mes chiminiques. Il m'a dit baby, ma pardon. Fais doucement, j'pète les plombs. Et comment? Et quand tu mens comme ça, jusqu'à 40%, tu fais la gueule, arrête-moi ça. C'était qu'un jeu fructissant. Mais mon Dieu, que c'est doux, voilà, je mène à bout. Il est piqué, c'est pas compliqué. Bébé, pourquoi y'a tout? Pourquoi y'a tout? J'ai changé la donne, j'vais le dominer. Je sais pas pour qui tu m'as pris, j'ai capté l'attaque, j'ai crom pom pom. Je crois bien que tu l'as senti, t'as loupé le gauche, j'ai la gâchette, ça fait rom pom pom. Toc toc toc, mais qui va là? J'ai eu ma dose, stop, qui va là? Tu t'approches, je m'éloigne. Et maintenant tu veux deviner mes failles. Je suis trop charismatique. Tu kiffes mes chiminiques. Il m'a dit baby, ma pardon. Fais doucement, pète les plombs. Et quand tu mens comme ça, jusqu'à 40%, tu fais la gueule, arrête-moi ça. C'était qu'un jeu fructissant. Mais mon Dieu, que c'est doux, voilà, je mène à bout. Il est piqué, c'est pas compliqué. Bébé, pourquoi y'a tout? Pourquoi y'a tout? J'ai changé la donne, je vais le dominer. Pourquoi tu mens comme ça?
On a voulu parler des chats parce qu'on les aime beaucoup et qu'on voulait en savoir plus sur le comportement. On est d'abord allé parler à des gens de la rue.
Pourquoi aimez-vous les chats?
Parce que c'est câlin, c'est mignon, c'est tout doux, c'est agréable. Toi, pourquoi t'aimes les chats?
Moi, j'aime bien les chats parce que ça ressent nos émotions, je pense.
Savez-vous pourquoi les chats sont agressifs?
Quand ils se sentent en danger ou quand ils se sentent attaqués, ils vont forcément riposter, quoi.
Pareil.
Comment communique-t-il avec vous?
Par des ronrons et des miaulements quand il a faim.
Avec ses pattes. Enfin, quand il est sur nous.
Ah oui, ouais.
Oui, tu vois ce que je veux dire, ouais.
Pourquoi les chats font leurs griffes?
Parce qu'ils ont besoin de les faire, sinon ça continue de pousser, c'est comme des ongles au final. Et ça serait trop long, donc ils ont besoin de les faire pour les entretenir. Voilà, c'est une manucure, quoi.
Ouais.
Pourquoi aimez-vous les chats?
Parce que ça m'apporte une présence à la maison tout le temps. Je travaille à la maison, alors je suis contente d'avoir mes petits chats. Voilà.
Savez-vous pourquoi les chats sont agressifs?
Les miens sont pas très agressifs, mais ils peuvent l'être s'ils connaissent pas ou si on va trop sur leur territoire. Ils aiment bien avoir leur zone de confort.
Comment communiquent-ils avec vous?
Elles parlent tout le temps. Enfin, elles parlent pas, mais elles miaulent partout, tout le temps dans la maison. Mais des petits miaulements, des petits bruits. C'est marrant. Comme un petit pigeon à moitié.
Pourquoi les chats font leurs griffes?
Je sais pas trop pourquoi, mais elles le font souvent. Je pense qu'elles ont besoin de les casser un peu de temps en temps. Je sais pas trop la vraie raison, mais elles le font un peu partout. Et sur mon canapé souvent. Voilà.
Merci beaucoup.
C'est bon ?
Maintenant, nous allons rencontrer le président de l'association Le Petit Corrigan, qui protège les animaux domestiques.
Les Petits Corrigans, elle a été créée en 2011. Nous recueillons donc chats, chiens et puis animaux de compagnie pour les faire en définitive adopter. On les prend en charge en fait. On fait le maximum pour les tirer de leurs difficultés et leur rendre un petit peu de bonheur.
Maintenant qu'on en sait plus sur l'association, intéressons-nous à l'amour des chats de sa présidente.
Pourquoi aimez-vous les chats ?
En général, les chats sont calmes, ils sont câlins, ils sont affectueux, ils sont intelligents et ils sont curieux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les chats, quand ils s'approchent de vous, ils viennent sentir, ils viennent essayer en fait d'avoir un contact avec vous.
Savez-vous pourquoi les chats sont agressifs ?
Les chats ne sont pas agressifs naturellement. Ils sont agressifs si on les dérange, si on essaie de leur faire du mal, mais sinon, les chats ne sont pas agressifs.
Comment communiquent-ils avec vous ?
Ils communiquent par des miaulements. Ils ont différents miaulements en fonction de ce qu'ils veulent vous demander, s'ils veulent manger, s'ils veulent rentrer. Mon chat, quand il veut sortir, il miaule devant la porte-fenêtre. Ils jouent aussi avec leur corps. Par exemple, ils mettent les oreilles en arrière quand ils ne sont pas contents. Alors, quand ils mettent la queue en l'air, au contraire, quand un chat vient vers toi et que tu vois qu'il met la queue en l'air, c'est qu'il veut que tu t'occupes de lui, c'est qu'il veut avoir des contacts avec toi.
Pourquoi les chats font la griffe ?
Alors, les chats font leur griffe parce qu'ils veulent marquer un petit peu leur espace et puis ils produisent des phéromones. Et il les dépose, ces phéromones, sur l'endroit où ils se trouvent ou sur un griffoir éventuellement pour indiquer aux autres chats qui vont être de passage « Attention, ici vous êtes chez moi, allez voir ailleurs ».
Pour nous, c'est la même chose quand un chat veut montrer son territoire, c'est-à-dire que nous, on n'a pas le droit de l'approcher.
Pourquoi les chats mettent-ils les oreilles en arrière ?
Justement, quand ils ne sont pas vraiment contents ou quand ils ont peur de quelqu'un, ou quand ils sont en colère.
Pourquoi les chats miaulent ?
Les chats miaulent pour différentes raisons, s'ils ont faim. Mon chat, quand je me lève le matin, il vient vers moi et puis il miaule. Tu penses bien pourquoi ? C'est parce qu'il veut que je lui donne à manger, tout simplement.
Pourquoi les chats ronronnent ?
Alors, les chats ronronnent quand ils ont besoin, quand ils sont heureux, souvent. Quand ils ont besoin, ils cherchent un câlin, ils cherchent des caresses. Mais il arrive aussi que lorsqu'ils sont un peu inquiets ou quand ils ont peur, ils peuvent ronronner aussi.
Pourquoi les chats se collent, frottent ou se frottent au mur ?
C'est un signe, c'est une marque de familiarisation. Et en fait, c'est parce qu'ils veulent, ils déposent des phéromones pour marquer leur territoire.
Pourquoi les chats régurgitent ?
Alors les chats régurgitent, c'est peut-être parce qu'ils ont mangé trop vite. Mais si par contre ils continuent à régurgiter plusieurs jours, il vaut mieux les envoyer voir un vétérinaire. Il y a peut-être quelque chose qui fonctionne mal au niveau de leur appareil digestif ou il y a peut-être une autre raison, quoi. Hein ?
À quoi sert votre association ?
Notre association, nous prenons en charge des chats, des chiens et des NAC, c'est-à-dire des animaux de compagnie comme les petits rats ou bien tous les petits animaux qui peuvent, comme les rongeurs aussi, qui sont abandonnés ou qui ont été maltraités. On les recueille, on voit un vétérinaire s'il y a besoin de les soigner et nous essayons de chercher des familles d'accueil qui veulent bien nous aider, qui s'en occupent, qui font tout ce qu'ils peuvent pour les familiariser au mieux, pour prendre des bons contacts avec eux et permettre une adoption ensuite. Parce que le but, notre but à nous, notre association, c'est de faire adopter tous ces animaux qui sont malheureusement abandonnés.
Trouvez-vous les chats gentils, mignons, méchants ou agressifs ou...
Non, ils sont câlins, affectueux. C'est vrai que les chats que vous pouvez rencontrer dans la rue ont une attitude un peu différente. C'est que la crainte. C'est d'ailleurs, chez nous les appelons des chats craintifs. Évidemment, un chat qui a été habitué dans une maison, dans un appartement, dans une famille aimante, une famille qui les a caressés, qui se sont toujours occupés d'eux, ben, ces chats-là, ils sont tout doux, ils viennent vers vous, la queue en l'air, comme on disait tout à l'heure, et vous pouvez les caresser comme vous voulez. Mais lorsque l'on peut recueillir un chat qui a vécu dans la rue au bout d'un certain temps, il devient aussi câlin, non, pas agressif, câlin et affectueux. Mais il faut beaucoup de patience pour ça. Mais c'est pas perdu. Ils peuvent, surtout les petits chatons, vous savez que malheureusement il y a beaucoup de petits chatons qui sont abandonnés aussi. Hein. Souvent les mamans font leurs petits dehors et puis ils deviennent, quand on les rencontre, ils se mettent à courir, ils ont peur de nous. Mais lorsqu'on les recueille et qu'on s'en occupe bien, et on les nourrit bien, on leur fait des câlins, on est affectueux avec eux, eh bien ils changent totalement d'attitude. Ils deviennent des chats sociables.
Pourquoi est-ce que les chiens, parfois, ils aboient ?
Bah écoute, c'est leur manière de s'exprimer aussi. Hein, ils peuvent grogner, un chien ça grogne aussi quand c'est pas content. Il y a différentes raisons pour lesquelles ils aboient, mais ils peuvent tout simplement avoir des aboiements tout à fait amicaux et chercher ton contact.
Comment se sentent les animaux que vous recueillez la première fois
C'est vrai que bah, souvent ils sont un petit peu craintifs. Hein. C'est nous qui sommes là pour leur redonner confiance et on le fait au travers de nos familles d'accueil. On confie à des gens, mais nous allons chez ces gens-là au préalable et on voit un petit peu dans quelle ambiance, dans quel environnement et avec quelles personnes ces chats vont vivre avant de partir en adoption. Les familles d'accueil ne sont là que de manière transitoire pour redonner confiance à l'animal, lui réapprendre à vivre avec des humains.
Est-ce que les chats aiment bien qu'on leur caresse le ventre ou sous les pattes ?
Sur les pattes, caresse le ventre, il vaut mieux y aller doucement. Il y en a qui apprécient, il y en a qui n'apprécient pas. Ah oui, sous le menton et le dos. Tu sais, les chats, ils ont leur petit caractère à eux aussi. Hein.
Par exemple, si jamais, parfois on va dans mon collège, ouais, y a des élèves qui parfois portent les chats brusquement et qui les secouent un peu, on va dire. Okay.
Et certains chats, d'un premier abord, n'aiment pas non plus qu'on les soulève de terre quand ils ne connaissent pas la personne. Bien sûr, lorsqu'il s'agit de des gens avec qui ils vivent, il n'y a pas de souci. Mais il faut éviter d'attraper brutalement un chat comme ça dans les bras, dans la rue, quoi.
Qu'ils apprennent à vous connaître ensuite, vous pourriez. En fait, quand je regarde un chat, parfois, je caresse. Et ensuite, quand il commence à se frotter contre moi, je commence à penser qu'il m'aime bien. Du coup, je commence à y aller doucement. Et si jamais il commence à bouger un peu, j'évite alors de le porter.
Bah, tu as parfaitement raison. Tu as bien compris le caractère des chats.
Est-ce que quand vous trouvez des animaux blessés, comme des chiots ou des chatons ou des oisillons ou des lapinous, ou des lapins plutôt. Enfin, est-ce que s'ils perdent une patte, est-ce qu'ils se font quand même adopter ? C'est rare, ça je comprends, mais...
Non, c'est pas forcément rare. Évidemment, il faut les faire soigner, hein, c'est la première des choses. Hein. Mais des animaux qui sont un petit peu, allez, on va dire... cabossés, c'est un petit peu le terme qu'on emploie quelquefois, eh bien au contraire, ils attirent la compassion des gens, au contraire. Souvent, moi j'ai vu des chiens à trois pattes, hein. Ça arrive qu'il y a des chiens à trois pattes, hein, des chats également, parce qu'ils ont été blessés, on a été obligé de les amputer, eh bien ces animaux-là trouvent aussi facilement que d'autres.
Moi, parfois en fait, chez moi je regarde des vidéos de chats blessés, il y a beaucoup de personnes quand même qui s'occupent d'eux et qui... voilà les guys.
Ils attirent l'attention et la compassion des gens qui aiment les animaux en tout cas.
Merci aux petits Corrigans pour leur participation à cette émission. Tout de suite, on fait une pause musicale.
Hey, et le business m'a rapporté que des ennuis. Moi, disque de platine des aineux. Je suis dedans, ça fait même pas un an qu'on va la DRK prendre la place des aînés. Je suis dans le bolide de la plaque et allemande. Elle reste marquée en gros sur le volant. Et 3 litres de ça consomme un peu comme mon fructifie. Toujours yeah. De plein d'essence.
Et ramène tous tes potos, on les baisse. Je veux niquer la grand-mère du boss. Je suis dans le bâtiment, je vais dans la pièce. Le colis passe pas par la poste. Je suis avec Cops, la détaille. Il pleut des balles à la fin de l'épisode. On la détaille, la ravitaille. Elle est tellement belle qu'elle a causé des morts.
100 grammes, 1 kill Pablo. Ça fait beaucoup, je t'en fais beaucoup. Planning bouclé, 4 jours dans la semaine, sur bouquet. Trop scotty, des bonnes qualités. J'en ai plus que du critical et de la G13. Propose une feuille pour les tirer. Hey, oh. Et je rejoins Geeks dans le bloc sa mère. Détesté par les cops, déféré pour de la merde. 3 trous des max, race tout retrace, gros salaire. Rafale dans le tas, ils me connaissent pas, j'ai laissé aucune trace. Allez niquer ma mère, je suis dans la ville avec S. Que tu penses que tu peux nous la mettre? Wow, serein, les deux pieds dans la tête. Compte l'oseille que je peux claquer au resto. On vous confirme qu'on vous baise tous. On lâche des albums ou des best-of. On va répéter qu'on les baise tous. Le soir défoncé, on en rigole. Pas compliqué, nous on encaisse tout. Mon gros, tu m'as vidé la caisse. Toi, je rentre dans l'appart, cagoulé comme d'hab. En plus, on est rentré par le toit. Encore un peu, jusqu'à. Un petit peu, une cons, deux grammes, 20 E, 11 heures, ici, 15 heures, recharge, ça tire, plus de balle, je recharge.
Nous allons maintenant parler de racisme. Il nous arrive de le subir ou d'en être témoin. Et on veut lutter contre ça. On est donc allé rencontrer plusieurs associations et on commence par le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples.
Qu'est-ce que le racisme ?
Le racisme, c'est une forme de discrimination liée à l'origine. Hein ? C'est la haine des autres.
Quels sont les différents types de racisme ?
Pour moi, il n'y en a qu'une forme de racisme, comme je viens de le dire, c'est la différence par rapport à l'origine. Par contre, il existe différentes formes de discrimination. C'est un petit peu différent. C'est-à-dire que là, c'est qu'on peut être discriminé par rapport à différents critères qui ne sont pas forcément. Souvent, pour les gens associent la discrimination justement uniquement à l'origine, alors qu'il y a 21 critères différents de formes de discrimination qui sont reconnus par la loi. Voilà. Donc, pour revenir à la première question, le racisme, c'est pas uniquement c'est un délit. C'est quelque chose qui est condamné par la loi. Hein. Donc, c'est des critères très très précis, quoi. C'est ce qui fait la différence souvent avec la liberté d'expression. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire à partir du moment où elles sont dans le cadre de la loi, d'accord ? Donc c'est quelque chose qui est très réglementé, entouré par la loi, le racisme, comme toutes les formes de discrimination.
Est-ce que vous avez des idées, actions pour arrêter le racisme ?
Ah, j'aimerais bien avoir des actions pour arrêter le racisme. Hein. Malheureusement, je n'ai pas de ce pouvoir-là. Par contre, moi, je lutte au quotidien contre les préjugés. Parce que souvent, le racisme, ça commence par les préjugés. Hein. Et j'essaye justement de sensibiliser les personnes que je rencontre, notamment les plus jeunes comme vous, pour lutter contre ces préjugés, parce que ces préjugés connaissent le racisme. Mais malheureusement, on assiste en ce moment à une forme de banalisation du racisme. Si tu comprends pas les mots que je dis, est-ce que tu comprends ? Et pourquoi je dis ça ? Parce que en fait, notamment vous qui êtes jeunes et souvent qui êtes sur les réseaux sociaux, depuis l'émergence des réseaux sociaux, on assiste à un déferlement de racisme et de propos et de haine sur les réseaux sociaux, parce que c'est souvent plus facile de dire de tenir des propos comme ça haineux envers les autres quand on se cache derrière un pseudonyme. Et malheureusement, en ce moment, moi, je fais partie d'une association qui lutte contre le racisme et je vois très peu de personnes qui s'adressent à moi pour justement engager des poursuites. Parce que quand on est victime de racisme, comme je le disais, c'est un délit, c'est quelque chose qui est hors la loi, donc on a le droit de porter plainte. Et en fait, on se rend compte depuis plusieurs mois, voire plusieurs années maintenant, que les personnes victimes de racisme ne veulent plus engager de procédure.
Qu'est-ce que le racisme peut entraîner ?
Peut entraîner beaucoup de dérives. Hein. On l'a connu malheureusement dans l'histoire. Hein. Ça alimente des dérives dans tous les domaines. Et souvent, le racisme est instrumentalisé justement aussi bien dans les débats politiques. Mais là, c'est un petit peu difficile pour moi de parler avec vous de ce qu'on appelle le racisme institutionnel, parce qu'il y a aussi malheureusement des États qui ont des... où on peut dire qu'il y a des comportements qui sont généralisés, qui sont inscrits un peu justement dans les pratiques. Et c'est notamment aussi contre ça qu'on lutte. Il y a le racisme ordinaire et ce qu'on appelle aussi le racisme institutionnel, c'est-à-dire un racisme d'État qui malheureusement existe encore.
Nous avons eu la chance de rencontrer une personne afghane réfugiée en France. Il nous raconte le racisme qu'il a vécu dans son pays et qui l'a obligé à fuir.
Est-ce que vous avez déjà été victime du racisme ?
Sûr que oui, je suis la victime de racisme. Mon nez, il est cassé. Mes dents, elles sont cassées. J'ai mal au dos parce que j'avais été très fort battu par les proches de mon beau-père. C'est ça.
Il faut que tu précises que le racisme dont tu as été victime ne s'est pas produit en France, dans ton pays d'origine.
Oui, c'est le pays de mon origine, c'est Afghanistan. Malheureusement, on a beaucoup de problèmes de racisme, des gens qui vont travailler avec des organisations étrangères. Ils vont avoir beaucoup de problèmes de racisme parce que nous sommes des gens qui ont été avec les organisations étrangères, avec des gens qui vont nous aider. C'est ça.
Bah, ça s'est passé où ?
Ça s'est passé chez nous, à la capitale de chez nous, Kaboul.
Sur quoi ?
Sur mon travail, parce que j'ai été interprète auprès des Américains, mon beau-père a été ennemi de moi, de ne pas travailler auprès des Américains, parce que c'est blasphème. Selon notre religion, c'est blasphème qui sont en train de travailler avec des étrangères. Ça se posera beaucoup de problèmes avec notre vie quotidienne.
Est-ce que quelqu'un vous a défendu ?
Non, malheureusement, il n'y a personne qui va nous défendre chez nous, malheureusement. On a des victimes, on a beaucoup de monde qui sont les victimes de racisme, les victimes de haine. Nous avons de la haine entre nous parce que c'est trop difficile d'expliquer tout ça. Le racisme, malheureusement, on a beaucoup de racisme chez nous. En Afghanistan, c'est un pays musulman. On a beaucoup de problèmes.
Qu'est-ce que tu as ressenti ?
En fait, je me sens plus calme, tranquille, protégé par la France grâce à ce pays qui m'a accordé beaucoup de faveurs par rapport à ma santé, par rapport à ma situation administrative. Grâce à ce pays, j'ai pris la fuite, quitté mon pays, j'ai tout derrière laissé moi. J'ai tout derrière laissé derrière moi. J'ai tout laissé derrière moi, malheureusement. À cause de mon travail, à cause de la haine entre les gens qui sont chez nous. On a beaucoup de problèmes chez nous, malheureusement.
Juste pour compléter ce que dit Asifi, donc nous, OMRAP, donc au mouvement contre le racisme pour l'amitié entre les peuples, comme je le disais tout à l'heure, on a malheureusement très peu de personnes qui viennent nous voir pour qu'on les soutienne, comme aurait pu le faire à ses fils s'il y avait une ONG dans son pays, pour qu'on les soutienne et qu'on essaye justement de les aider à faire condamner les personnes qui ont des actes ou des propos racistes. Donc nous, notre travail maintenant consiste notamment à essayer d'accueillir sur notre territoire les personnes comme Asifi qui fuient leur pays pour des raisons politiques. Alors il y a des personnes qui sont victimes de racisme comme Asifi. Alors je dirais plus que c'est des persécutions qui sont liées à des problèmes aussi politiques. On a aussi, par exemple, on accueille aussi des personnes qui fuient pour des problèmes d'orientation sexuelle, c'est-à-dire qui sont homosexuels. Il faut savoir que, par exemple, en Afghanistan, comme dans beaucoup, malheureusement, de pays africains, c'est encore condamné, hein, à l'homosexualité. Donc, aujourd'hui, 80% de notre 90% de notre activité consiste justement à accueillir ces personnes-là et à les aider dans leur démarche pour faire valoir leurs droits. Et nous, on estime que justement, c'est lutter contre une forme de racisme que d'aider les personnes exilées qui arrivent sur notre territoire à s'installer et à faire reconnaître leurs droits et avoir une vie meilleure.
Est-ce que vous avez des idées pour arrêter le racisme ?
Malheureusement, ce n'est pas moi qui va décider d'arrêter. C'est des gens qui vont décider d'arrêter le racisme.
Je veux bien essayer de répondre à cette question. Je n'ai pas la réponse. Mais il y a un article qui est sorti cette semaine, je ne sais plus dans un magazine assez connu, qui disait qu'on était tous un peu racistes, que le racisme était inhérent à notre condition, dans le sens où, alors évidemment, c'est pas des thèses génétiques, mais c'est-à-dire qu'on a toujours tendance à dévaloriser les autres, quoi. Tous les gens qui sont différents de nous, quoi. Et que justement, moi je sais que moi-même, j'ai mes propres préjugés, donc, que j'essaye de combattre évidemment tous les jours, mais il ne faut pas se dire personne n'est raciste, ça n'existe pas. On a tous nos propres préjugés et nos propres a priori sur les personnes différentes de nous. Donc la seule façon de combattre le racisme, c'est l'éducation, évidemment. C'est le sourire aux autres et puis c'est aussi la rencontre. Hein. Parce qu'on a toujours peur des gens qui sont différents de nous. Et moi, je sais aussi par expérience, notamment pour côtoyer beaucoup d'exilés. Un exemple concret, c'est que les villages qui votent le plus les extrêmes, c'est-à-dire, pour pas citer, on sait très bien que les partis, notamment d'extrême droite, leur fond de commerce, c'est le racisme. Et les villages qui votent le plus justement pour ces partis, ce sont ceux qui n'accueillent pas d'étrangers. Et donc, pourquoi alors qu'ils n'ont pas d'étrangers chez eux, pourquoi ils ont des opinions racistes ? Et parce que justement, c'est la méconnaissance, c'est la peur de l'autre. Quand on ne connaît pas l'autre, on a peur. Donc moi, je dis toujours que la meilleure façon de réduire les préjugés et tout ça, c'est la rencontre. En fait, on se rend compte. Il y a eu une expérience il y a quelques 2-3 ans maintenant en France d'installation un peu contrainte de groupes d'exilés comme Nassefi dans des petits villages. Alors évidemment, ça a déclenché beaucoup d'hostilité au départ. Parce que les gens, justement, déjà, on leur avait pas demandé leur avis, donc ils aimaient pas trop qu'on leur impose comme ça des étrangers dans leur commune. Et en fait, on s'est rendu compte que ça s'est super bien passé partout. Qu'il y a eu plein de belles histoires, que les enfants ils se mélangeaient dans les écoles, et il y a même eu des mariages mixtes et tout ça, et qu'en fait et que la meilleure chose c'est pour essayer de réduire le racisme, c'est de faire que les gens se rencontrent.
Qu'est-ce que le racisme peut entraîner ?
Ça peut entraîner des actes racistes, ça peut aller même jusqu'à des guerres. Hein, donc raison de plus pour essayer de l'oreiller rapidement.
Le seul problème est la guerre. La guerre est le seul problème, je pense.
La haine, c'est ce qui alimente toutes les guerres, c'est la haine des autres.
Oui, la haine des autres. Ça, c'est une seule chose que le racisme peut entraîner.
Te fais-tu des amis ?
En France ?
Non, pas encore, malheureusement. À cause de ma santé, parce que je n'allais pas très bien. Ça fait 3 ans que j'habite ici en France. Malheureusement, ma santé et mon état psychique, il n'allait pas très bien. Je viens d'être hospitalisé. Je suis sorti d'hôpital. Heureusement, je me sens plus mieux qu'avant. Maintenant, j'essaye d'avoir des amis, d'avoir quelqu'un qui va parler avec. Ça ira. Peut-être, je pourrai avoir des amis. j'aurai des amis.
Je sais, ce qui est difficile pour Nazifi, comme beaucoup de gens qui sont contraints de fuir leur pays, c'est qu'il a laissé derrière lui ses enfants. Donc c'est ce qui lui procure ce mal-être et le fait qu'il a du mal encore à rentrer en contact avec les autres parce qu'il pense beaucoup à sa famille qu'il a laissée au pays derrière lui.
Ça fait ça, madame a bien raison. C'est le problème de manque de mon pays. Malheureusement, on a de la guerre pendant plus de 40 ans. Et le manque de mes enfants parce qu'ils sont orphelins. Leur mère, elle est morte par son propre père. C'est vraiment bizarre quand même chez nous. C'est le seul problème de ne pas être avec mes enfants. Mes enfants ont besoin de leur père biologique et mes parents ont besoin de leur fils biologique. Voilà, c'est le manque de mon pays, le manque de mes enfants, comme madame vient de le dire. C'est le manque de mes enfants. Je pense à mes enfants parce qu'ils sont orphelins, ils sont innocents. Si j'ai fait beaucoup d'erreurs, comme par exemple, nous sommes envisagés des gens qui sont criminels, des gens qui sont criminels comme ça. Comme par exemple, quand je travaille avec des étrangers, je me suis envisagé criminel. Et ça c'est moi qui a fait quoi que ce soit. Je ne sois pas envisagé criminel. J'ai travaillé. Je n'ai rien fait. C'est moi. Mes enfants ont fait quoi? Ils sont orphelins, ils sont innocents. C'est le manque de mon pays, c'est la pensée. Donc, ça c'est le problème.
Merci beaucoup aux deux personnes du mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples d'avoir répondu à nos questions. Maintenant, nous allons accueillir l'association Liberté Couleur qui organise des ateliers, des événements pour lutter contre le racisme.
Qu'est-ce que le racisme ?
Le racisme, c'est une discrimination, c'est du coup un traitement inégal. On va mettre de côté quelqu'un sous prétexte de son origine réelle ou supposée. C'est-à-dire qu'on va imaginer que quelqu'un vient de quelque part parce qu'il a une couleur de peau qui est différente, par exemple. Et du coup, on va pas lui accorder les mêmes droits qu'à une autre personne à cause de ça.
Et est-ce que ça vous est déjà arrivé ?
Ben moi, je suis blanc et donc non, moi, je suis pas victime de racisme.
Où est-ce que cela arrive-t-il le plus ?
Malheureusement, partout et tout le temps. Et puis, pour le coup, il y a ce qui est de l'ordre de la discrimination au regard de la loi. Et donc d'un traitement inégal en fonction de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et puis il y a ce qui est ressenti comme une agression raciste. Il y a le racisme ressenti, le ressenti discriminatoire, qu'on appelle ça, et qui pour le coup est tout le temps et qui est de l'ordre de l'émotion d'une personne qui a intégré que par exemple un regard, qui interprète un regard comme une agression. Et qui pour le coup peut être tout le temps dans les transports particulièrement, mais dans la rue partout.
Vers quel âge ?
Bah de tout petit à très très vieux.
À qui peut-on en parler, pardon ?
Eh ben on peut en parler normalement à tout le monde, quelqu'un de confiance. Et puis après, s'il y a besoin, donc c'est pareil, hein, si c'est dans un cadre scolaire, n'hésitez pas à en parler à l'infirmière, à l'assistante sociale, à un CPE, à un surveillant, à n'importe quel adulte en qui vous avez confiance. Et puis, si c'est en dehors du milieu scolaire, ça peut être un animateur du quartier, ça peut être un éducateur du relais, par exemple. Ça peut être vraiment n'importe quel adulte en qui vous avez confiance. Et puis, il y a aussi, effectivement, le défenseur des droits, qui a des permanences régulières à la CAF, au centre social de Villejean, à la direction de quartier Nord-Est, au pôle social du Blône et à la maison de quartier de Sainte-Thérèse.
Merci beaucoup à Liberté Couleur.
C'est l'heure de faire une pause musicale.
On est matrixé. Chez qui passe au monde pour eux, j'ai dégoté le canon scié. Je n'ai pas vent dans la rue, j'ai deux chaînes gros, j'ai le flot d'un entier. Il est 14h, la sacoche remplie à moitié, les cœurs sont cotés. Parle pas devant la justice, sinon je serai obligé d'amputer. Un pétard, une bécane, et tu finis par t'étaler. Que tu cours à bout de souffle, dans ta tête défilent des images. Tu penses à tes crimes commis, la dernière vodka que t'as mise. Mais le masque à trois trous sera la dernière image dans ta vie. Je veux les clés du Porsche, une go à côté quand je dors. Et si ça se corse, on sort le machin comme l'écorce.
Si c'est toi ou moi, je n'ai pas le choix. Si c'est toi ou moi, oh non, j'ai pas le choix.
Fini, je vends plus le bédo, maman contente, je remplis le frigo. Tyson bras dans l'auto, HK, Jeffy et la Mello. Tout vu dans le ghetto, respect avant Pesos. Dans mon dos, un tas de couteaux, Bélec, la mort roule en moto. Hey, c'est tout pour l'oseille, raconte pas ta vie, je m'en fous tes conseils. Quand j'avais rien, j'ai pas vu tes appels, non, me tends pas la main, j'ai pas.
On termine maintenant cette émission avec un micro-trottoir sur les grèves. On a voulu savoir ce que les gens pensaient et s'ils savaient des difficultés en raison des grèves. Est-ce que la grève impacte-t-elle votre travail ?
Non.
La grève impacte-t-elle votre façon d'aller au travail ?
Non, du tout, je me déplace à pied. Et je prends le métro. Et à Rennes, il n'y a pas de conducteur dans le métro, donc...
D'accord. Est-ce que la grève impacte-t-elle vos enfants ?
J'ai pas d'enfants.
Quelle solution avez-vous s'il n'y a pas de bus ?
Le vélo. La voiture, c'est quand j'en ai une.
D'accord. Êtes-vous pour ou contre la grève ?
Pour.
Pourquoi ?
C'est le seul moyen, c'est le seul rapport de force qu'on ait contre les institutions, contre le gouvernement.
Est-ce que, savez-vous pourquoi ? Il y a-t-il des grèves dans les transports à Rennes ?
Pourquoi il y a des grèves dans le transport à Rennes ? Franchement... Je ne regarde plus les informations parce que ça ne m'intéresse plus. On voit bien que l'État ne fait rien pour écouter les gens. C'est pour ça qu'on en est dégoûté et qu'actuellement, on ne sait plus quoi faire. Et il faudrait que ça change. Et là, actuellement, on est en train de se poser des questions, ce qu'on va faire. Et les gens sont sur les réseaux sociaux pour voir exactement ce qu'ils vont faire parce que là, un jour, ça va exploser.
Je suis pour... Les grèves, n'importe laquelle, je suis pour la manifestation humaine, pour que les gens manifestent, pour que les gens participent, pour que les gens réclament ces droits. Donc je suis pour. Je pense que peut-être ils forment part des grèves, peut-être les employeurs sont envie d'aller aux grèves, donc il y a moins de vous, je ne sais pas trop en fait.
Pensez-vous que la grève va durer ?
Je sais rien du tout, je sais pas.
Là oui, ça dure depuis longtemps et ça risque de continuer parce que, je vous l'ai déjà dit, comme on a un président qui n'écoute rien et qui fait la sourde oreille et qui fait que de se promener, là ça change pas grand-chose.
Quelle solution avez-vous s'il n'y a pas de bus ?
Je m'en vélo.
Prendre la voiture. Et comme il ne faut pas qu'on prenne la voiture, il faut qu'on prenne les transports en commun, soi-disant, pour ne pas polluer la planète. Et ben, il y a un problème dans leur politique.
Oui, ils partent énormément parce que c'est mon moyen de locomotion. Donc, s'il y a moins de bus, de services, j'aurai difficulté pour arriver à mon travail, soit à mon travail, soit à l'université, etc. C'est pas que je suis contre de la grève, c'est que juste il faut nous prévenir. Par exemple, aujourd'hui, il a eu une grève et voilà, j'ai pris mon vélo, c'est mon copain qui vient me chercher en voiture. Voilà, je peux trouver des solutions. Et donc, pour moi, c'est OK s'il y a des grèves, s'il y a moins de bus, qu'il nous dise à quelle heure il va avoir moins de bus. C'est OK, ça pour moi.
Est-ce que la grève impacte-t-elle vos enfants ?
Oui, aussi, pareil, parce qu'ils ne peuvent pas aller à l'école et on est obligé toujours de les emmener à droite et à gauche quand ils ont besoin d'aller au sport, d'aller partout, quoi.
Êtes-vous pour ou contre les grèves ?
Je suis pour la grève quand il y a des choses qui sont bonnes, mais pas pour empêcher les gens de travailler. Faut faire les choses en bien.
Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que cette émission était animée par les jeunes de l'aide aux devoirs du cadran.
Merci au CILAB et aux bénévoles de l'accompagnement à la scolarité de nous avoir accompagnés. À bientôt sur CILAB.
Merci à Camille d'avoir lancé ce projet. Tu nous manques et on espère que tu vas bien.